Bonjour Mounia Meydou.
Merci d'avoir accepté l'invitation des studios. On est content de vous recevoir pour le film Papicha. Donc pour camper un peu le récit, on est sur le début, on est le début des années 90, début de la guerre civile en Algérie. Et donc on suit le personnage de Nejma, jeune étudiante qui, en parallèle de ses études, est créatrice de mode. Elle débute sa lutte pour sa liberté, pour l'indépendance des femmes et de ses proches dans cette lutte. Dans ce récit, il y a une super mise en valeur des femmes. On voit des moments de pure liberté, comme des moments aussi de détresse et de souffrance. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez réussi à travailler avec toutes ces femmes qui ont un charisme fou et qui ont l'air d'avoir une force aussi très intense. Est-ce que le feeling entre elles et entre vous a été travaillé? Est-ce qu'il a été naturel? Comment ça s'est passé?
Papicha est un projet en maturation depuis 15 ans. C'est un film qui est inspiré de mon propre vécu, puisque moi j'étais étudiante dans les années 90. J'étais étudiante en journalisme et j'ai vécu dans un campus universitaire similaire à celui qui est décrit dans le film. Et donc il y avait une base vraiment historique, une base vécue que j'ai voulu après transmettre à travers cette fiction. Bien évidemment, le casting a pris beaucoup de temps. Il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas d'agence de casting. Très peu de comédiens font du cinéma, puisqu'à l'époque, nous avions 400 salles de cinéma. Et à cause de la guerre civile, aujourd'hui, nous avons uniquement 5 salles de cinéma. Donc, si vous voulez, le cinéma n'est pas une activité très commune. Et le travail de casting a été très laborieux. Donc, le casting s'est fait à Paris, mais à Alger aussi. Ce qui s'est réellement passé avec notamment Lina Koudri, le rôle principal héroïne de ce film, c'est 4 ans de préparation, durant lesquels donc Lina a pris des cours de couture, a pris des cours de dessin. Donc on a travaillé énormément sur pas mal de recherches au niveau du stylisme, de la haute couture, mais aussi au niveau des dialogues, au niveau des détails. Et aujourd'hui, je crois qu'on le ressent, à l'image. Une fois que Lina Koudri, donc notre héroïne, était déterminée, il fallait créer le noyau autour d'elle. Donc cette espèce de microcosme avec toutes ces femmes aux personnalités différentes. Donc arrive le rôle de Wessila, qui est une youtubeuse, puisqu'il y a très peu de jeunes comédiennes. Donc c'est une influenceuse, youtubeuse que j'ai tout simplement recrutée et castée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Par la suite, on a le rôle de Samira, la fille voilée. Elle, c'est une slameuse, c'est une chanteuse qui interprète et qui chante en Algérie. Et donc c'est son vrai premier rôle au cinéma. Puis vous avez Kaina, celle qui rêve d'exil. Alors Kaina, c'est une docteure, elle est docteure en biologie. Donc elle n'est pas du tout comédienne. Et ce qui m'intéressait, c'était toute cette diversité, complexité de caractère. Et une fois que j'avais toutes ces magnifiques comédiennes, on a trouvé le lieu du tournage et je leur ai demandé d'habiter ensemble pour créer de la complicité, de l'amitié, que ça transpire vraiment une vraie cohabitation depuis des mois. Et donc elles ont habité dans la cité universitaire pendant une semaine, elles ont dormi dans ces pièces-là et c'est ce qui se ressent, j'imagine, aujourd'hui à l'écran. En effet, comme je disais, Papicha, c'est 15 ans de maturation, 5 ans d'écriture, 5 semaines de tournage. Il faut savoir que 5 semaines de tournage, c'est très court pour un film d'époque, dans un pays où l'infrastructure n'est pas réellement démocratisée. Si vous voulez, un énorme travail a été fait avec les comédiens, mais aussi avec l'équipe technique. Avec Léo Lefebvre, qui est un excellent chef opérateur, qui est très jeune, pour qui c'est réellement son premier long métrage. Il en a fait d'autres auparavant, mais celui-ci, j'ai l'impression que c'était le plus sportif, puisque c'était 5 semaines, 6 jours sur 7, il y a eu un vrai travail de préparation, de découpage technique, car nous savions qu'on avait un délai très court. Bien évidemment, vous l'avez souligné, le point de vue est primordial. Moi, je viens du documentaire et le point de vue, pour moi, c'est la singularité de l'auteur. En l'occurrence, pour moi, tout part du point de vue de Nejma. Nejma, c'est notre héroïne et donc il était hors de question qu'on ne soit pas de son point de vue, même lorsque les choses sont en arrière-plan, on est toujours de son point de vue à elle. Et pour recréer ce côté immersif aussi, moi j'ai privilégié les plans très serrés, des plans où on ressent davantage la respiration des filles, la peau, la féminité, la sensualité, mais c'est dans un but d'immersion, pour qu'on puisse être dans cette espèce de microcosme féminin avec ces femmes-là. Et puis vient un autre travail de montage, puisque le montage a été très décisif aussi, c'est une autre écriture du scénario. Et là, On a continué à travailler sur ce rythme un peu effréné qui est représentatif pour moi de la pulsion de vie, puisque c'est un film sur la pulsion de vie. Et donc, avec le chef opérateur et le monteur, on a prolongé ce côté immersif en ayant un montage très vif, très viscéral, avec des plans, si vous voulez, plutôt abrupts, coupés de façon très abrupte, pour pouvoir ressentir ce côté d'urgence de vie et de pulsion de vie, en tout cas.
Dans ce film, vous explorez une multitude de thématiques et votre point de départ, c'est justement le vêtement. Comment vous en êtes venu à cette idée ?
Alors, le vêtement a une grande symbolique dans le film. Le vêtement, c'est aussi le tissu social, c'est le tissu de la société algérienne. Pour moi, le défilé de mode, c'est un élément très important de la culture algérienne et puis un défi à cette époque-là. À une époque où on veut couvrir le corps des femmes, à une époque où la propagande veut que les femmes soient couvertes de la tête aux pieds, Nejma, elle, arrive avec cette idée pas forcément révolutionnaire puisqu'elle utilisait un tissu ancestral symbolique qu'elle recostumise, on va dire, et qu'elle retransforme en quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, le vêtement arrive en opposition avec le côté propagande envers les femmes. Et il y a bien évidemment le côté féminité, sensualité. Mais pour moi, ce qui était important, c'était que c'était un personnage qui partait d'un élément traditionnel, ancestral, pour le moderniser et le rendre beaucoup plus accessible. Et c'est aussi quelqu'un qui refuse pas cette tradition, qui connaît parfaitement la religion musulmane, qui veut pas quitter le pays. Donc il y a vraiment cette attache assez forte à la terre, à ce voile qui est ancestral et qui est typiquement algérien.
Est-ce que finalement ce tissu, c'était pas une métaphore en deuxième ligne rouge du récit ? Justement de parler d'un tissu religieux recustomisé en tissu moderne, un peu révolutionnaire. Est-ce que ce n'était pas aussi une seconde façon de parler de cette histoire ?
Le tissu dans le film représente le tissu de la société algérienne et correspond à la personnalité, au personnage de Nejma qui se bat et qui se défend pour son pays, pour sa terre, pour son Algérie. Et son Algérie, ce n'est pas les voiles noires, ce n'est pas cette propagande, mais c'est plutôt du voile qui est blanc, qui est symbolique, qui est plutôt sacré et qui est la terre algérienne. Donc bien évidemment, en filigrane, le tissu, le haïk, est une symbolique aussi de cette Algérie qui peine à avancer, mais qui doit le faire.
Tu veux prendre une balle, c'est ça ?
Flaclas, y a le papier, Jean.
Moi, je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout.
Ce qui étonne beaucoup les gens, c'est... Alors, on pose souvent la question, ah bon, mais c'était comme ça en Algérie. Oui, c'était comme ça. C'est-à-dire, effectivement, dans les années 90, moi, j'avais 18 ans. Et effectivement, on écoutait Technotronic, on écoutait les New Kids on the Block, on écoutait Rock Voisine, on écoutait Benny B. Et c'est vrai que c'est une culture qui est authentique. Enfin, c'est quelque chose qui est réel et authentique. Et moi, je suis partie, effectivement, de ce vécu-là pour essayer de le transmettre. Et c'était une jeunesse, effectivement. Nous étions une jeunesse qui nous identifions à n'importe quelle autre jeunesse mondiale. Il y avait un aspect aussi pop que je voulais donner, un peu électro, d'où donc l'intervention de Rob, puisque Rob, du groupe Phoenix, en fait, a composé la musique du film, et c'était dans ce but-là. C'est dans le but de moderniser un peu le récit, de lui donner une touche un peu pop et un peu électro. On a d'autres chants algérois, typiquement algérois, qui sont là et qui sont présents dans tous les foyers en Algérie, qui est le chabi ou le raï ou ce type de musique. Et on a aussi l'intervention donc des filles qui chantent, par exemple dans le hammam. C'est la fameuse slameuse qui chante, en fait. Et à la fin du film aussi, lorsque l'espoir qui arrive sur le dernier plan, la musique aussi est interprétée par la slameuse, donc par Amira Hilda. Donc voilà, il y a une multiculturalité comme ça, musicale aussi, qui était intéressante à amener.
Bravo d'abord pour ce film, parce que tous les films qui nous viennent de soit réalisés par les Maghrébins ou même soit qui sont réalisés par sur le Maghreb, en tout cas, on dit ils s'intéressent au sujet, mais c'est pas beaucoup travaillé en tout cas. Mais on dirait que vous avez pris le ton. D'ailleurs, vous l'avez dit, ça a duré 5 ans en fait d'écriture. Et vraiment, c'est une restitution qu'on peut adhérer, qu'on peut être bouleversé de ce film, parce que on a les larmes aux yeux pendant 3-4 moments dans l'histoire du film. Et puis c'était aussi de le réaliser dans une cité universitaire où il y a pas les hommes. Et aussi à l'extérieur, vous n'avez pas voulu intégrer les hommes pour dire voilà, les femmes exactement, ils sont seuls. Donc je reviens simplement juste à la musique, parce que vous avez utilisé la musique de Rayan Araï. Et c'est une formation, c'est la première formation maghrébine qui est sortie au-delà de l'Algérie, au-delà du Maroc, au-delà de France. Donc ils ont restitué le son algérois avec des instruments occidentaux. Ça aussi, c'est un symbole fort aussi. Vous avez parlé des années 90. Est-ce que vous n'étiez pas obligé, mais en tout cas, vous devrez intégrer cette musique de Rayan Araï qui...
Non, pour moi, elle était effectivement, c'est une musique c'est un morceau qui a mondialement vraiment bien marché. Bon, il s'est avéré que moi, je connais le chanteur, et pour moi, c'est vrai que c'était un choix personnel et surtout sur une séquence forte. On est à la plage, c'est un moment d'évasion, c'est un moment de liberté. C'est la plage, c'est un exutoire, et cette chanson correspond réellement à ce côté d'espoir malheureusement contré dans un pays qui vit une guerre civile. Donc c'est vrai que ce morceau, pour moi, il était idéal et il était logique là où il est. We'll be right back. Oui, c'est une séquence qui a été très difficile à tourner. Elle a été très difficile à expliquer aux comédiennes et notamment à la comédienne principale. Elle ne comprenait pas effectivement pourquoi ne pas se retourner. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, c'est-à-dire on refuse d'accepter ce qui se passe, on refuse d'accepter le deuil, on refuse d'accepter la mort, on refuse... C'est elle qui l'indique, c'est elle qui indique qu'elle est à l'intérieur, donc il y a de la culpabilité en plus. Mais au-delà de ça, c'est une coupure du son, puisque c'est tragique, c'est quelque chose qui est dramatique, mais c'est aussi le climax et c'est un pivot pour la suite de la narration, c'est-à-dire que dans la première partie, on a quelque chose qui est assez dynamique, qui est un peu, on va dire, sur, comme je l'ai dit, sur la pulsion de vie, où on vit à 200 à l'heure, et puis là, il y a ce moment clé qui arrive, et qui permet une transition avec un rythme qui est beaucoup plus lent, qui correspond beaucoup plus au rythme de la vie, on va dire. Mais en effet, cette scène, elle a été assez difficile à trouver au moment du tournage. Ça a été assez compliqué de faire accepter à Lina pourquoi elle ne se retourne pas. Mais il y a autre chose aussi, c'est que sa sœur est journaliste, et les journalistes étaient une cible facile à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup de chances, de probabilités d'être abattus, puisque les journalistes étaient une cible, ainsi que les intellectuels et les étrangers, les artistes étaient une cible vraiment privilégiée à cette époque. Et c'est vrai que il y a un regard qui se fait entre la sœur, les deux sœurs avant la sortie de la voiture, qui en dit long sur ce qui peut arriver. Et c'est vrai que souvent, lorsque les journalistes étaient ciblés, la mort était certaine. C'est-à-dire qu'une fois que la balle est partie, il n'y a aucun espoir et donc on ne se retourne même plus pour constater ce qui se passe. Donc il y a plusieurs lectures de ce moment-là.
Et justement, vous parlez d'espoir. J'imagine que c'est pas facile dans l'écriture d'un scénario de toujours intégrer l'espoir dans quelque chose qui, chapitre à chapitre, est de plus en plus monstrueux, de plus en plus dur. Alors, vous utilisez la musique, vous utilisez des plans particuliers, vous utilisez la capacité de certaines de vos actrices à sortir un peu ce fléau. Quel a été pour vous le moteur principal de la crédibilité de l'espoir dans votre récit ?
C'est un film qui vraiment rend hommage aux femmes algériennes, dans le sens où pendant la guerre de libération, les femmes ont été très présentes auprès des hommes pour combattre le colonialisme. Les femmes ont été présentes pour combattre aussi l'intégrisme religieux et le radicalisme. Les femmes ont continué à aller au travail, aller à sortir dans la rue, à refuser de porter le voile. Donc il y a de la résistance. Et cette résistance, c'est de l'espoir, en conclusion, puisque ces femmes n'ont jamais abandonné. Ce sont des femmes qui se sont battues. Et aujourd'hui, effectivement, malheureusement, il y a eu 150 000 morts durant cette décennie noire. Mais les femmes ont été très présentes et ont résisté à leur façon. Donc oui, il y a de l'espoir. Dans ces moments sombres, on a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de complicité, pas mal de musique, il y a des exutoires comme ça qui permettent de supporter. Et puis il y a l'humour, puisque l'humour est quelque chose qui sauve beaucoup de sociétés. En l'occurrence, les filles sont quand même en pleine guerre civile, mais il y a de l'humour, il y a de la complicité, il y a de l'entraide. Il y a tous ces éléments-là, et pour moi, c'est des éléments porteurs d'espoir. Moi, ce film, je l'ai tourné avant la Révolution du sourire, qui a démarré le 22 février. On est à 28 semaines en ce moment, c'est la 28e semaine de Révolution dans la rue. Et oui, c'est porteur d'espoir, puisqu'il y a une jeunesse qui est dans la rue, et le film a un écho assez particulier avec ce qui se passe là-bas actuellement. Et tant qu'il y a une jeunesse qui veut changer, qui résiste, qui milite, qui veut plus de liberté, des femmes qui sont là pour reconquérir l'espace public, pour changer le code de la famille, il y a de l'espoir. Ans de guerre civile, 150 000 morts, c'est quelque chose d'assez traumatisant. L'ancienne génération, on parle très peu. L'ancienne, c'est-à-dire celle qui a 40 ans aujourd'hui, qui a vécu cette période et qui n'arrive toujours pas à prendre le recul nécessaire pour cicatriser. Oui, c'est une histoire qui est récente. Je pense que le temps pourra effectivement aider et panser les blessures, mais elle est très peu enseignée. Elle est enseignée souvent par des documentaires, des choses un peu rébarbatives comme ça. Et je sais que les gens ne sont pas prêts encore. Les gens ne sont pas prêts à en parler. Et moi, c'est pour ça qu'il m'a fallu 15 ans, puisque vous parliez de transmission. J'avais envie de transmettre cette histoire, mais sans pathos, avec le recul, avec bienveillance. Et ça, c'est le temps.
C'est-à-dire, il y a au moment des années 90, il y a un processus électoral. On sait que votre film, il aborde vraiment la situation de la femme, même avant, dans les années 60-70, ce problème-là existe. Parce qu'il suffit de sortir un texte contre l'islam, il est plus pour les hommes que pour les femmes. En tout cas, au Maghreb, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui militent, qui sont contre le texte qu'on peut expliquer à sa guise. Que la religion, les religieux, en tout cas les religieux, ils l'expliquent à leur façon. Donc il y a une discrimination incroyable vis-à-vis des femmes qui commencent à parler de ce sujet-là, malgré que c'est tabou, c'est interdit.
Non, ce qui se passe en ce moment en Algérie, c'est que les femmes sont vraiment dans la rue pour, comme je l'ai dit, la reconquête de l'espace public, mais c'est surtout pour changer le code de la famille. Et c'est le code de la famille qui est problématique en ce moment, qui transforme les femmes en mineures à vie, puisqu'elles sont sous l'autorité d'un père, d'un frère ou d'un homme. Et je pense que le changement, il vient de là. Il faut créer l'égalité entre hommes et femmes.
Vous avez fait un film qui est très riche, très dense, où on explore aussi bien les aspirations de la jeunesse algérienne que la politique, le féminisme, une dimension historique aussi. Comment vous y êtes pris pour gérer l'équilibre de toutes ces thématiques ?
C'est la sincérité. En fait, il y a une base bien évidemment historique, puisque moi, j'ai une formation de documentariste. J'ai fait quelques documentaires, j'ai fait une école de documentaire à la FEMIS. J'ai fait pas mal de reportages et donc là, si vous voulez, la base était plutôt documentaire. Donc j'avais vraiment une trame historique, politique, véridique qui était réellement là. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment ces femmes réussissaient, comment ces femmes se battaient pour atteindre des objectifs et des rêves dans une société en pleine guerre civile. Donc la trame de la guerre civile, le contexte en tout cas politico-social était là, était ancré. Et à partir de là, ce qui m'intéressait, c'était le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte l'histoire d'une jeune femme qui se bat pour son émancipation à travers un défilé de mode. Et donc après, c'est beaucoup de travail. Je ne vais pas vous livrer toutes les ficelles, il y a une base documentaire, il y a ce personnage, et puis on enrichit au fur et à mesure ce scénario avec des recherches, avec des inspirations, avec des gens qu'on côtoie, et on enrichit comme ça la complexité des personnages. Puis après, on travaille avec les comédiens, on fait des répétitions, on rajoute, on supprime, on travaille avec des coachs, on improvise sur le tournage, on modifie les dialogues, on améliore l'équilibre entre les filles pour créer un noyau et pour créer cette complexité qui est de nature humaine finalement, puisqu'on n'est pas tous gentils ou méchants. Et après, c'est un travail d'équipe. C'est le chef opérateur, effectivement, Léo Lefebvre, a fait un travail absolument fantastique. Le monteur Damien Cailleux est arrivé avec sa façon très précise, et c'est pour cela que j'ai fait appel à lui de monter. Et Rob, pour la musique, c'était pareil. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On ne fait pas un film seul, hein. Je pense que la richesse, elle vient de là. Le film sort le 21 septembre, puisqu'on part là dans 3 semaines à Alger le présenter. Donc on a quelques projections qui sont prévues là-bas le 21 et le 22. Une sortie qui est prévue aussi en septembre. Et le film a été donc présélectionné par l'Algérie pour représenter le pays aux Oscars.
Et au Maroc et en Tunisie ?
Alors, en Tunisie, on est très 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 contents, puisque je viens de donner l'accord au JCC. Alors pour le Maroc, je crois qu'il y a Tanger et Casablanca qui vont le diffuser. Nous, on voulait Marrakech, mais bon, il fallait une exclusivité, donc je crois que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc on a ces deux salles.